Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans Nature qui affirme avoir localisé l'origine de l'humanité.
On sait que notre espèce a évolué en Afrique, mais on ne sait pas où exactement. Et selon cette étude, Homo sapiens serait apparu en Afrique australe, au nord du Botswana, au sud du bassin de Zambèze, une zone jadis verdoyante. Alors pour tirer ses conclusions, une équipe australienne a analysé l'ADN de plus de 1200 personnes de cette région pour étudier de l'ADN mitochondrial, de l'ADN qui a la particularité d'être transmis par la mère. Les analyses ont décelé le plus vieux lignage génétique maternel, appelé L0. Ils ont ensuite créé un arbre généalogique qui montre la séparation des populations anciennes. L'origine de notre espèce serait donc née il y a environ 200 000 ans dans cette région, avant de s'y disperser entre 130 000 et 110 000 ans. Paul Verdu est chargé de recherche CNRS et généticien des populations au laboratoire du Musée de l'Homme.
Donc en fait, si vous regardez l'ADN mitochondrial, vous regardez une histoire très spécifique, c'est celle de la lignée maternelle, l'unique lignée maternelle qui vous a donné naissance. Et donc à partir de là, ça nous donne à la fois une information extrêmement précise, mais aussi une information qui est malgré tout limitée. L'ADN mitochondrial ne va me raconter qu'une partie de l'histoire génétique et généalogique qui vous a donné naissance. Donc c'est à la fois une information cruciale et une information qui nous donne qu'une facette de l'histoire du peuplement humain. Donc il est clair que c'est un apport important pour nous les généticiens pour mieux comprendre l'histoire du peuplement humain. En revanche, c'est aussi une étude qui contextualise finalement assez peu, c'est-à-dire que ils vont chercher une origine dans ces populations-là et ils trouvent des lignées extrêmement anciennes, mais des lignées qu'on va retrouver également par ailleurs. L'une des grandes difficultés, c'est que on considère que les populations qu'on a échantillonnées là aujourd'hui, qui vivent à un endroit aujourd'hui, on imagine qu'elles ont toujours vécu là. Là, ça commence à être une hypothèse beaucoup plus lourde de sens et de conséquences et beaucoup plus spéculative. Il va falloir mettre des bémols quant aux conclusions. Et là, les conclusions sont effectivement que ces régions-là auraient porté, il y a 100 000 ans, les ancêtres des lignées maternelles qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui est une hypothèse pour le moins questionnable. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail et beaucoup de pain sur la planche.
On passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Climate Change, avec la fonte des glaces, le pergélisol de l'Arctique libère à présent de grandes quantités de CO2.
C'est une vaste étude internationale qui a réalisé plus de 1000 mesures à partir d'une centaine de détecteurs de dioxyde de carbone placés sur plusieurs sites de la région. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que partout ailleurs et en fondant, le pergélisol libère environ 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an. C'est deux fois plus élevé que les derniers relevés et surtout c'est plus que les plantes de la région sont capables de stocker durant l'été. Cela signifie que l'Arctique est devenu un émetteur de dioxyde de carbone. Selon le pire scénario de cette étude, les émissions du pergélisol pourraient augmenter de 41% d'ici 2100.
L'astéroïde Iji, qui pourrait être requalifié et devenir la plus petite planète naine de notre système solaire.
De nouvelles observations qui viennent de paraître dans Nature Astronomy amènent à la reconsidérer. Suite aux images de meilleure résolution réalisées par l'instrument Sphere du Very Large Telescope, on découvre qu'il est plus large que prévu et surtout qu'il est sphérique. C'est l'une des conditions pour être classé au rang des planètes naines. Iji en remplissait déjà trois. Il n'est pas une lune, il tourne autour du Soleil et il n'a pas nettoyé les environs de son orbite. L'Union Astronomique Internationale pourra trancher à son sujet dès 2020.
Et enfin dans Nature toujours, un consortium international vient de réaliser le plus grand séquençage génomique de plantes vertes jamais réalisé.
Cela représente 9 années d'études et c'est l'arbre évolutif le plus complet à ce jour pour les plantes vertes. Aujourd'hui on compte plus de 5000 espèces de plantes et le but de ce travail c'est de démêler les fondements génétiques de ce développement. Les chercheurs ont séquencé des transcriptomes, l'ensemble des gènes activement exprimés de plus de 1000 espèces de plantes. Algues vertes, mousses, fougères, conifères, plantes à fleurs, les résultats mettent en lumière plus d'un milliard d'années d'évolution. L'une des caractéristiques de l'évolution des plantes est la fréquence de duplication du génome. Des lignées de plantes ont doublé, triplé, voire quadruplé l'ensemble de leurs gènes, ce qui entraîne une taille massive du génome.